Bonjour et merci d'être à notre compagnie pour cette conférence de presse des Nations Unies. Au sommaire de cette conférence de presse, les activités des composants de la MONUSCO avec les informations sur la police de la MONUSCO, la section droits de l'homme. Et puis nous vous présenterons le rapport non pas mensuel mais annuel de la situation des droits de l'homme en RDC. Un rapport qui sera co-présenté tout à l'heure par Monsieur José María Aranaz, le nouveau directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC, qui sera accompagné par son adjoint Monsieur Abdulaziz Choi. Ce sera ensuite les activités de l'équipe pays présentées par Yvan Edoumou pour l'humanitaire et Geneviève Delenoy pour le développement. Et puis enfin, nous aurons depuis Goma le major Kassan Romain, porte-parole militaire par intérim, qui nous donnera quelques éléments d'information sur la situation militaire en RDC. Nos invités aujourd'hui sont Monsieur Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui sera tout à l'heure ici à Kinshasa, notre compagnie, et puis depuis Goma, je croyais que vous le voyez, le général Alberto dos Santos Cruz, le commandant de la force de la MONUSCO. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec donc les activités des composantes de la MONUSCO, que nous commençons avec l'information publique. Alors, suite à la fusillade intervenue à Arou, Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, s'est rendu sur place pour réconforter les populations. Un communiqué vous sera remis à la fin de cette conférence de presse, mais je vais vous donner lecture des grandes lignes de ce communiqué tout à l'heure. Je suis profondément attristé par cette fusillade qui a fait donc plusieurs morts parmi la population d'Arou, a déclaré Martin Kobler à son arrivée à Arou. Dans la nuit du 31 janvier, des individus encore non identifiés ont ouvert le feu dans cette localité, provoquant ainsi la mort de 15 personnes, dont un volontaire des Nations Unies et 17 autres personnes. La MONUSCO s'est immédiatement rendue sur place pour porter secours aux victimes. Martin Kobler, accompagné du vice-gouverneur de la province orientale, Monsieur Pascal Mombi, du ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales et humanitaires, Madame Jeanne Alacha, et du commissaire du district de l'Ituri, se sont donc rendus auprès des blessés à l'hôpital d'Arou. Avant cette visite à Arou, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, s'est rendu à Bounia, où il a rendu hommage à Monsieur Gangan Poujabi à l'occasion de la cérémonie de rapatriement du corps du volontaire de la MONUSCO décédé donc lors de cette attaque à Arou. À présent, section protection de l'enfance de la MONUSCO, au cours de la période du 28 janvier au 3 février, 49 enfants ont été victimes de violences directement liées au conflit dans la province du Katanga, dans la province orientale, au nord et au sud Kivu. 3 jeunes filles ont été violées par des éléments des FDLR dans le territoire d'Uvira. 46 enfants ont été séparés des groupes armés, y compris les FDLR Foka, 22 éléments libérés. Les FDLR Ud, 3 éléments. Les Maïmaï Raya Mutomboki, 15. Les NDC Cheka, 2. Maïmaï Nyatura, 2. Les Maïmaï Djado, 1. Et l'UPCP, 1. Police de la MONUSCO. Une cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation des cachots du groupement mobile d'intervention ouest de Kisangani dans la commune de la Tchopo a eu lieu jeudi dernier. Cela fait suite à un projet à impact rapide cuivre initié par la police de la MONUSCO, approuvé depuis le mois d'août dernier. Les deux chambres qui servaient de cachots étaient dans un état de ruine avancée. Elles n'avaient ni toiture, ni porte et les évasions étaient fréquentes donc. Cette cérémonie s'est déroulée devant un parterre d'autorités locales et de la MONUSCO. Voilà tout donc pour les activités des composantes de la MONUSCO. Et avant de retrouver nos collègues donc du Bureau conjoint des Nations Unies pour le rapport, comme je le disais, annuel sur la situation des droits de l'homme, nous allons passer tout de suite la parole à l'équipe pays. Tout d'abord, la parole est à Yvan Edoumou pour le volet humanitaire. Yvan, bonjour.
Bonjour Charles, bonjour chers amis journalistes et chers amis auditeurs de Radio Okapi. Demain jeudi, le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté humanitaire lancent le plan d'action humanitaire 2015. Cela se passera dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères demain. Aujourd'hui, près de 7 millions de personnes dans les zones affectées par les violences et les conflits armés ont besoin de protection, de sécurité alimentaire et d'accès aux services de base. Des millions d'enfants, des femmes enceintes et allaitantes, ainsi que des personnes vivant avec le VIH-Sida et la tuberculose sont aussi exposées à la malnutrition. Des familles entières dans les zones affectées par les épidémies ont besoin de soins de santé, d'accès à l'eau potable et d'hygiène. Cependant, toutes ces personnes affectées n'ont pas besoin d'aide d'urgence. Ainsi, le plan d'action vise 5,2 millions de personnes à travers la RDC. Le plan d'action, qui est le résultat d'un long processus consultatif entre les différents partenaires, est un outil de planification stratégique ainsi qu'une méthodologie pour le suivi et l'évaluation des résultats et de l'impact. Il est aussi une estimation chiffrée des besoins humanitaires et un instrument de plaidoyer pour mobiliser les ressources financières afin de répondre efficacement aux besoins des populations vulnérables. La presse est cordialement invitée demain jeudi à 9h30 à la semaine de lancement. Vous trouverez à la sortie de cette conférence de presse les détails du programme. Et pour les collègues journalistes qui sont à l'intérieur, nos bureaux, les bureaux OCHA qui sont à l'intérieur du pays se chargeront de vous informer des lancements provinciaux qui auront lieu dans les jours à venir. Merci.
Voilà, merci donc à Yvon Aïdoumou pour ces informations sur les activités humanitaires en RDC. La parole est à présent à Geneviève Delenoy. Elle nous présente les activités développement. Bonjour Geneviève.
Bonjour Charles, bonjour à tous et bonjour à Goma. Tout d'abord, le procureur de la Cour pénale internationale a fait appel lundi 2 février contre la décision sur la liberté provisoire accordée le 23 janvier 2015 à Monsieur Bemba. Pour l'accusation, le juge unique a commis une erreur de droit et de fait en ordonnant la liberté provisoire en faveur de M. Bemba sans imposer des conditions pour faire face aux risques liés à sa libération. Pour cette raison, le procureur demande à la Chambre l'annulation pure et simple de la décision du 23 janvier ou, à titre subsidiaire, de renvoyer la question de la détention de M. Bemba à la Chambre de première instance pour examen immédiat. Le 23 janvier, la Chambre préliminaire 3, dans le cadre de l'affaire de subornation de témoins, a décidé d'accorder la liberté provisoire à M. Bemba. Cette décision n'a toutefois rien changé à la situation de détention de l'accusé Bemba, puisque sa demande de liberté provisoire dans l'affaire principale, celle liée aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Centrafrique, avait été rejetée. L'Organisation mondiale de la santé à présent, un message de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. C'est aujourd'hui, 4 février, que se célèbre cette journée mondiale qui a pour thème « À notre portée » et qui souligne les efforts que les individus, les communautés, les gouvernements et d'autres acteurs peuvent faire en matière de lutte contre le cancer. En 2012, le cancer a été à l'origine de 8,2 millions de décès dans le monde, selon des estimations. Dans la région africaine, les cancers du col de l'utérus et du foie sont les deux types de cancers les plus fréquents. De nombreuses vies peuvent être sauvées en Afrique si l'on investit suffisamment dans la sensibilisation publique aux signes avant-coureurs et symptômes des cancers fréquents. En outre, les populations devraient adopter des modes de vie sains qui réduisent le risque de cancer. Au moment où cette journée mondiale contre le cancer est célébrée, la directrice de l'OMS lance un appel au gouvernement des pays africains pour qu'ils généralisent l'accès des patients cancéreux aux vaccins destinés à la prévention du cancer, aux services de dépistage en vue d'une détection précoce des cancers et aux traitements et services de soins palliatifs. Les partenaires au développement devraient quant à eux soutenir les gouvernements dans leurs efforts visant à atteindre les objectifs nationaux de lutte anticancéreuse par un appui à l'élargissement de l'accès aux services de soins de santé et la mobilisation de ressources suffisantes. Je termine avec une information émanant du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. Après l'exécution du projet pilote de désarmement civil volontaire en Ituri, province orientale, de mars à août 2014, le gouvernement de la RDC a procédé avec l'appui du PNUD au triage et au marquage de 692 armes à feu collectées. L'objectif est de trier ces armes à feu et de marquer celles qui seraient jugées fonctionnelles par la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et la réduction de la violence armée. Résultat, 550 armes à feu ont été marquées de manière électronique avec un code ISO de la RDC, suivi du numéro de l'arme. Le marquage des armes permet une traçabilité sans faille de l'arme lors de son parcours entre plusieurs garnisons et soumet son possesseur à une identification aisée. Ainsi, en cas de conflit, de violation des droits humains ou de simples infractions commises à l'aide d'armes à feu, les bases de données nationales ou provinciales facilitent le dénouement des enquêtes. Les présumés auteurs peuvent être punis et les populations civiles et leurs biens sont mieux protégés. Cette action de marquage se fait essentiellement en collaboration donc avec le PNUD, le Bureau de prévention des risques de relèvement communautaire et les autorités congolaises. Un communiqué de presse vous sera distribué en fin de conférence, ainsi que le calendrier du PNUD 2015. Et je ne peux pas résister au souhait suivant, j'espère que les léopards vont ramener la coupe et je leur souhaite bonne chance pour ce soir.
Voilà. Bon, voilà, en attendant ce match de ce soir, nous allons continuer notre conférence de presse direction Goma, où nous allons rejoindre le major Kassam Romain, qui va donc, en tant que porte-parole militaire intérimaire, nous faire donc le point de la situation sécuritaire. Major Kassam, c'est à vous. Bonjour.
Bonjour. L'environnement sécuritaire dans les provinces situées à l'ouest de la République démocratique du Congo, y compris Kinshasa, a été jugé paisible durant la semaine écoulée. En province orientale, les forces onusiennes et congolaises poursuivent leurs opérations conjointes dans les districts de Haut et de Bas Wélé, visant à neutraliser les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur, auteurs d'exactions contre les populations civiles. Le climat sécuritaire dans le district d'Ituri a été singulièrement marqué par l'attaque lancée contre une boîte de nuit à Arou, mais aussi par les exactions perpétrées par les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri contre les populations civiles dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. En effet, le 31 janvier 2015, environ 12 individus non identifiés, armés d'AK-47 parlant Swahili et Lingala, ont fait incursion dans un dancing nommé Bandalbar, situé à Arou Centre, et tiré à bout portant sur les invités. 14 individus ont été tués, dont 2 officiers des FRDC, le commandant en second de la police nationale congolaise et un agent de la MONUSCO. Les insurgés ont ensuite fouillé les cadavres et récupéré l'argent et les téléphones portables avant de se retirer en direction de l'Ouganda. Alertés par les tirs, des unités de la force de la MONUSCO déployées dans la région ont immédiatement projeté des renforts sur le lieu de l'incident pour contrer l'attaque et secourir les blessés. Une femme grièvement blessée, ainsi que 17 autres individus, dont un agent de la MONUSCO, ont été évacués par les soldats de la paix vers l'hôpital général d'Arou, ainsi qu'au centre de santé d'Ania. Un véhicule de la PNC déployé en intervention contre les éléments armés a été sérieusement endommagé par les tirs des assaillants. La situation sécuritaire à Arou est tendue, mais reste sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Au sud du territoire d'Urumu, particulièrement à Bagoro, des miliciens du FRPI opérant sur l'axe Miamia-Zarna, 4 km à l'est de Bogoro, ont tendu le 27 janvier 2015 une embuscade à 45 individus, pillé 30 d'entre eux, violé une fille, kidnapper une autre et emporter une motocyclette. Sitôt informés, les troupes d'intervention rapide de la force de la MONUSCO ont été immédiatement déployées sur le terrain et ont mis fin aux activités des insurgés dans la région. Par ailleurs, les FARDC, soutenus par des casques bleus, ont, au cours des différentes opérations et patrouilles menées dans la région, appréhendé plusieurs miliciens du FARPI, notamment 4 à Bukiringi et 6 à Ara, 36 km au sud de Boga. La situation sécuritaire au Nord Kivu a été dominée par le lancement par l'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, de l'opération dénommée Sukula 2 contre les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, mais aussi par la poursuite de l'opération dénommée Umuja 3 dans le territoire de Beni. À ce jour, aucun accrochage significatif n'a été reporté entre les troupes coalisées et les rebelles des FDLR. Des unités des FARDC engagées dans cette opération, avec le soutien des casques bleus de la force de la MONUSCO, sont déterminées à éradiquer les FDLR basés dans les régions de Pinga, Kanyabayonga, Kiwanja et Ishasha. Au chapitre des redditions, il faut noter que du 28 janvier 2015 à ce jour, 7 rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, avec 2 armes, et 1 du groupe Mai Mai La Fontaine, soit 8, se sont rendus aux troupes onusiennes et déployés dans la province. Au sud de Kivu, l'opération dénommée Kamilisa ou Salama 2, menée par l'armée congolaise et soutenue par la force de la MONUSCO, se poursuit normalement. Elle vise à neutraliser les rebelles du Front National de Libération dans la région de Ruwa, située approximativement 25 km à l'ouest d'Uvira. Le climat sécuritaire au Katanga est marqué par les opérations menées par les FARDC visant à éradiquer des groupes armés actifs dans cette province, notamment le groupe Mai Mai, Bakata Katanga. Les forces de la MONUSCO soutiennent activement les FARDC et y mènent également des patrouilles intensives de domination de terrain dans le but d'interdire toute liberté d'action aux forces négatives et protéger les populations civiles. Dans le secteur 2, l'environnement sécuritaire a été jugé calme durant la semaine écoulée. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1856 patrouilles armées, dont 544 nocturnes, et fourni 73 escortes pendant la période sous examen.
Merci donc, Major Kassam. Nous revenons ici donc à Kinshasa pour la suite de cette conférence de presse. Et comme je vous le disais au début de cette conférence de presse, nous avons en notre compagnie Abdulaziz Choy, le directeur adjoint du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et son nouveau directeur, José Maria Aranaz, que vous voyez à l'extrémité droite de la table. Ils vont donc nous présenter non pas le rapport mensuel, mais le rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en RDC. Il faut dire que dans le cadre de son mandat tel que défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo assure une surveillance étroite de la situation des droits de l'homme à travers le territoire congolais et procède à des analyses des tendances relatives à cette situation. Des informations sur ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités congolaises afin qu'elles prennent des actions nécessaires en vue de traduire en justice les auteurs des violations des droits de l'homme documentées par le bureau conjoint et qui sont présentées régulièrement donc à cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Tout au long de l'année 2014, le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a enregistré 2360 violations des droits de l'homme sur le territoire de la RDC, ce qui représente une baisse par rapport à l'année 2013 qui était de l'ordre de 2600 violations enregistrées. Bonjour Monsieur Abdulaziz Choy.
Bonjour Charles.
Et merci de renouer en ce début d'année avec les rapports sur la situation des droits de l'homme. Alors quelles sont les grandes lignes de ce rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en RDC?
Merci Charles. Bonjour mesdames et messieurs, bonne et heureuse année. On n'a pas eu l'occasion de se voir depuis la fin de l'année 2014. J'ai avec moi aujourd'hui le nouveau directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, José Maria. Je lui donne quelques minutes la parole avant qu'il me le rende, afin que je puisse présenter, afin qu'il puisse dire un mot.
Merci beaucoup, Abdulaziz. Bonjour, chers collègues de la presse. Je suis très content d'être ici et nous restons à votre disposition pour travailler ensemble. Si on peut continuer après ça avec les questions. Mais je donne la parole maintenant à Abdulaziz pour présenter les rapports du bureau.
Merci beaucoup. Vous allez noter effectivement que nous avons décidé de vous présenter le rapport de situation pour l'année 2014. Nous dérogeons un peu à la règle qui consistait à vous présenter un rapport mensuel. Nous allons vous donner les bilans pour l'année 2014. Au cours de l'année 2014, le bureau conjoint a enregistré 2360 violations des droits de l'homme sur le territoire de la RDC. Ce qui représente une baisse par rapport à l'année 2013 où nous avions enregistré 2600 violations des droits de l'homme. Les provinces les plus touchées restent les provinces de l'Est de la RDC, avec plus de 1730 violations des droits de l'homme, notamment la province du Nord Kivu pour 975 violations, la province orientale 525 violations et la province du Sud Kivu avec 230 violations des droits de l'homme. L'ensemble des agents étatiques aura été responsable de 1354 violations des droits de l'homme, ce qui représente à peu près 57% du nombre total des violations que nous avons enregistrées en 2014. Parmi les agents étatiques, les militaires des FRDC, les agents de la PNC seraient les principaux responsables des violations des droits de l'homme que nous avons enregistrées. Pour les militaires FRDC, nous avons enregistré 699 violations. Et pour les agents de la PNC, 546 violations des droits de l'homme. Pour ce qui est des combattants des groupes armés, toute obédience confondue, nous avons enregistré 1004 violations en 2014. Parmi les groupes armés qui se sont le plus illustrés, nous avons les combattants Mai Mai, toute obédience confondue, qui auraient été responsables des violations des droits de l'homme pour au moins 285 violations des droits de l'homme, suivies par les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, pour 157 violations des droits de l'homme. En 2014, nous avons également documenté 364 victimes adultes de violences sexuelles dans les provinces affectées par le conflit, notamment la province orientale, où 184 femmes ont été victimes de violences sexuelles, la province du Nord Kivu, 122 femmes et 3 hommes, la province du Sud Kivu, 29 femmes, et la province du Katanga, 26 femmes. Toujours en 2014, 67 violations des droits de l'homme à l'encontre de 50 défenseurs des droits de l'homme, de 48 journalistes et de 44 opposants politiques ont été enregistrés par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire de la République, ce qui représente une tendance plus ou moins préoccupante dans la perspective des prochaines élections. En 2014, des avancées ont été notées en matière de lutte contre l'impunité, c'est important de le noter, notamment par la condamnation de 2 anciens officiers des FRDC qui figuraient sur une liste de 5 noms d'officiers supérieurs de l'armée congolaise que le Conseil de sécurité avait remis la liste avait été remise au président Kabila par une délégation du Conseil de sécurité lors d'une visite ici au Congo en 2009 dans le cadre en soutien aux efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de tolérance zéro pour ce qui est des crimes graves et des violations graves des droits de l'homme. Le 7 novembre 2014 à Kinshasa, la haute cour militaire a condamné le général Jérôme Kakwavu à 10 ans de prison pour viol et crimes graves, crimes de guerre par meurtre, torture commis par lui directement et par les combattants sous son commandement dans le district de l'Ituri entre 2003 et 2005 par son groupe armé, les forces armées du peuple congolais FAPC en sigle. Le 15 décembre 2014, la cour militaire du Sud Kivu a condamné le lieutenant-colonel Bedi Mobulu Ngangela, alias colonel 106, à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité commis dans la province du Sud Kivu entre 2005 et 2007. En 2014, le bureau a poursuivi son travail de plaidoyer en matière de droits de l'homme par la publication de 4 rapports. Conjointement avec la MONUSCO, le premier rapport portait sur les avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en RDC, publié le 9 avril 2014. Le deuxième rapport, qui est très peu connu, portait sur c'est un rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme et les activités du Haut-Commissariat en RDC, publié le 1er septembre 2014. Le troisième rapport portait sur les violations des droits de l'homme commises par le M23 dans la province du Sud Kivu pendant toute la période que certaines parties du Sud Kivu ont été sous l'occupation du mouvement M23, avril 2012, avril 2014. Ce rapport a été publié le 9 octobre 2014. Le quatrième rapport que vous connaissez très bien est le rapport sur les violations des droits de l'homme commises par des agents de la PNC dans le cadre de l'opération Louis Kofi à Kinshasa entre le 15 novembre 2013 et le 15 février 2014. Ce dernier rapport a fait l'objet de critiques, je ne vais pas revenir là-dessus. En 2014 également, nous avons, dans le cadre de nos activités de renforcement des capacités et de coopération technique, entrepris et exécuté 205 activités de formation et de renforcement des capacités. certaines organisées en partenariat avec les autorités, le ministère de la Justice et nos partenaires également nationaux en vue de renforcer la capacité des acteurs. Entre janvier et décembre 2014, nous avons coordonné et mis en œuvre 34 missions conjointes de protection. Dans les provinces orientales, Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, ainsi que 9 missions d'enquête conjointes avec les parquets militaires, en soutien à l'action des parquets militaires. Nous avons également, à travers le pays, conduit et mis en œuvre 106 missions d'enquête des droits de l'homme dans le cadre de notre mandat, spécialement dans les provinces affectées par le conflit. Je vous remercie.
Voilà, merci donc à M. Abdulaziz Choi pour cette synthèse de rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en RDC. Et comme je vous le disais au début de cette conférence de presse, notre invité aujourd'hui est Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui est à notre compagnie. Et avant d'ouvrir cette session de questions-réponses, je vais lui donner la parole pour qu'il nous fasse une déclaration. Il faut juste rappeler que il était récemment donc à Goma, puis à Addis Abeba au sommet de l'Union africaine, puis il est revenu à Goma avant de se rendre à Bunia, puis à Aro. Voilà un peu pour ces derniers mouvements à travers donc la sous-région. Monsieur Martin Kobler, bonjour.
Bonjour Charles. Chères auditrices, auditeurs de Radio Kapi, chers membres de la presse à Goma et ici à Kinshasa, et je souhaite la bienvenue à José María, un vieux ami de moi, le successeur de Scott Campbell ici, et bonne chance ici. Voilà, mais pour ne pas l'oublier maintenant. Alors, un message très très clair pour les léopards pour ce soir. Je félicite les léopards avant tout pour alors maintenant le demi-finale. C'était vraiment fabuleux. J'étais à Addis Abeba le samedi soir, le 4-2. Et bonne chance pour ce soir et bonne chance pour le dimanche. Pas pour le samedi, pour le dimanche. Et j'en suis sûr. Mes félicitations et bonne chance aux léopards pour ce soir. Tout d'abord, dans leur match contre Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je ne veux pas continuer la série de ces déclarations ici pour vous donner la chance de poser des questions. Seulement quelques points. Premier point, je reviens, hier soir, je suis revenu d'Arou et je suis sous l'impression des événements qui se sont passés à Arou. On a perdu, comme vous savez, un collègue, j'ai rendu hommage à Bunia hier, mais aussi ma visite à Arou, c'était un message de solidarité pour la population à Arou. C'était un acte d'atrocité, de brutalité qu'on n'accepte pas et c'est pourquoi j'étais là avec le vice-gouverneur de la province et d'autres dignitaires par là. C'était très important pour moi d'y aller. Nous avons aussi des rapports des carnages à Beni, un nouveau carnage ici, je ne connais pas les détails tout à fait, mais c'est aussi une chose que nous condamnons et ça réaffirme notre détermination. Alors deux, conjointement avec les FRDC dans le territoire de Beni, dans le combat contre les ADF, de continuer. Comme Charles l'a dit, je reviens d'Addis Abeba, du sommet de l'Union africaine. Le secrétaire général des Nations Unies était là aussi. Il a adressé l'Assemblée, la plénière, et il s'est concentré parmi d'autres choses sur deux points qui aussi concernent la RDC. C'était le combat contre les FDLR et c'était la préoccupation sur la situation ici à Kinshasa, Bukavu et Goma, Lubumbashi pendant les manifestations violentes. Et je cite seulement une chose de son discours. Je crois que c'était une déclaration, un discours très très courageux du secrétaire général des Nations Unies à Addis. Je cite « Les peuples du monde entier ont exprimé leur inquiétude face aux dirigeants qui refusent de quitter le pouvoir. » Je, le secrétaire général, je partage leurs craintes. Les changements constitutionnels non démocratiques ne devraient jamais être utilisés pour s'accrocher au pouvoir. J'appelle tous les dirigeants en Afrique et dans le monde entier à écouter leur peuple. Les dirigeants contemporains ne peuvent pas se permettre d'ignorer les souhaits et aspirations de ceux qu'ils représentent. Voilà, c'était une citation du discours du secrétaire général à Addis Abeba. Nous concentrons ici nos efforts sur maintenant le lancement des opérations contre les FDLR. Comme vous savez, j'étais avec vous la dernière fois, le mercredi dernier, de Kinshasa, hein, avant de me déplacer le jeudi à Beni avec le commandant de la force pour rejoindre le général Etumba qui a déclaré le lancement des opérations. C'est vraiment maintenant le feu vert aussi des dirigeants ici à Kinshasa de commencer les opérations contre les FDLR ici. C'était le grand sujet à Addis Abeba aussi. Le ministre Tshibanda était là. Il a aussi déclaré que les opérations ont déjà commencé. Nous n'avons pas d'informations sur maintenant les opérations qu'ils ont commencées. Nous ne voyons pas beaucoup. C'est en état de planification, de coopération avec nous. De notre point de vue, ça n'a pas encore commencé, mais je suis convaincu. Maintenant, on a la volonté politique de le commencer, ça marche dans les prochains jours. Mais il faut vraiment offrir aussi et demander notre soutien. Comme vous savez, ce sont des opérations qui ont été annoncées, qui sont gérées par les FDLR, FRDC, qui sont menées par les FRDC avec le soutien de la MONUSCO. Et on est en contact avec le chef d'état-major, mais aussi avec les militaires à Goma. C'est quoi ce soutien? C'est un soutien stratégique, la planification. Ce deuxième, le soutien opérationnel. Nous avons des moyens, comme hélicoptères d'attaque et comme d'autres moyens, de soutenir les FRDC dans leurs opérations contre les FDLR. Et troisièmement, c'est le soutien logistique, c'est le transport. C'est le carburant, ce sont des choses pratiques, logistiques. Alors, soutien stratégique, soutien opérationnel, soutien logistique, c'est ce que nous pouvons faire dans cette opération qui a mené. Je suis très heureux, nous avons maintenant le feu vert et je suis très confiant que ça marche maintenant. Dernier point, c'est la situation ici à Kinshasa. Après maintenant les inquiétudes, après les manifestations violentes, après la crise maintenant, de vraiment continuer nos efforts de coordonner avec la CENI. Maintenant, la CENI décide sur le calendrier électoral. Nous sommes en contact avec la communauté internationale. Comment est-ce que nous pouvons mieux aider ce processus de déclarer ce calendrier électoral global menant jusqu'au fin 2016, parce que c'est la condition aussi d'avoir le financement. C'est très important alors de cofinancer, mais la communauté internationale attend maintenant la déclaration, la présentation du calendrier électoral. Deuxième chose ici à Kinshasa qui nous préoccupe, c'est le coupage d'Internet. C'est pas encore possible d'envoyer les SMS et d'avoir accès non limité à l'Internet, c'est aussi une chose, nous sommes en contact avec le gouvernement sur une base quotidienne parce qu'il faut vraiment restituer maintenant l'Internet et tout ça. On a dit dès le début qu'il ne devrait pas couper ça. Le gouvernement a décidé de couper l'accès libre pour l'Internet pour des raisons de sécurité, mais maintenant, ce n'est pas une justification.